Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Bienvenue dans votre émission Ma ville, ma région sur Radio Shalom 97.1 FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan de l'Église, comédien et metteur en scène, fondateur de la compagnie de broc et de plumes. Il vient nous présenter son association, ses projets artistiques, ainsi que les activités culturelles et pédagogiques qu'elle propose tout au long de l'année. Bien le bonjour, Jonathan.
Bonjour, merci de me recevoir.
C'est un plaisir. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours en tant que comédien et metteur en scène ?
Tout à fait. Alors, je suis du coup comédien, metteur en scène. Je viens du Jura. J'ai fait mes études, mes premières armes de théâtre à l'Université de Franche-Comté à Besançon. J'ai fait le Dust Théâtre et après ça, je suis parti au Conservatoire de Tours en cycle d'orientation professionnelle. J'en suis sorti en 2016 et à partir de ce moment-là, avec l'une de mes collègues, on a cofondé la compagnie de broc et de plumes. Voilà, parce qu'on avait envie de se retrouver devant des textes exigeants, devant une volonté aussi de pouvoir transmettre au plus grand nombre via le côté un peu broc, c'est-à-dire de briques et de broc. Donc on fait du théâtre avec les moyens du bord. On va vraiment dans des lieux décentralisés qui ne sont pas faits pour accueillir le théâtre et on essaye d'amener un peu de nos projets dans ces lieux. Alors tous les projets sont très différents au sein de la compagnie. On a eu un premier projet en 2020-2021 qui s'appelle toujours Entretien de débauche, qui est l'histoire d'une courtisane fictive québécoise qui arrive à Paris, dans le Paris du 19e. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de cette courtisane auprès de la haute bourgeoisie, de la bourgeoisie tout court, et de comment elle va essayer de se faire une place dans la société. C'est comique, c'est terrible aussi. On en ressort avec vraiment une tendresse, je dirais, pour nombre de ces femmes qui font ça aussi parce qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles ne font que suivre et obéir par la force des choses. Suivre et obéir, ça fait écho à un spectacle qui doit arriver là le 10 décembre prochain, qui s'appelle Malinche, une femme entre deux mondes, qui est donc la figure de cette personne que Hernán Cortés, pendant la conquête du Mexique de 1519 à 1521, a utilisé comme interprète du nahuatl en mayab et du mayab en espagnol. Et effectivement, cette femme-là aussi fait beaucoup de débats, sujet à controverse, mais elle n'a fait que suivre et obéir, elle n'a fait que survivre dans un monde, et donc on essaye aussi de transmettre des histoires un peu compliquées, complexes, via quand même une accessibilisation. Malinche, ça fait partie d'un cycle que j'ai commencé à créer en 2020, qui est le cycle des contes aztèques, vraiment un cycle autour de la Mésoamérique. Et il y a eu donc trois spectacles qui ont été créés avant celui-ci, avant Malinche, une femme entre deux mondes. Contes aztèques, qui est né en 2022, où on est deux, où on parle de la création du monde, de l'univers selon les mythes nahua, les anciens mythes mexicains, et marionnettes, théâtre d'ombre. Un autre spectacle qui s'appelle « Les voix du serpent à plumes », où là, on va plutôt interroger les mythes anthropogoniques, la création de l'humanité, la survie de l'humanité, via les mythes nahua. Et « Les chants du colibri », qui est un spectacle plein air autour des fleurs emblématiques du Mexique. Tout le monde connaît la cempasúchil, mais on a aussi la cuatlasochitl, qu'on va retrouver là, justement, qu'on retrouve d'ailleurs déjà dans nos supermarchés, puisque c'est ni plus ni moins que l'étoile de Noël, la poinsettia. Et donc la cuatlasochitl est une fleur mexicaine qui est symbole de pouvoir et de guerre, de sang. Et le dahlia, voilà, la cocosochitl. Donc on essaye de brasser un petit peu tout ça.
D'où vous êtes venu cette attirance, entre guillemets, si je peux me permettre du terme, cet intérêt pour la mythologie mésoaméricaine, si je ne me trompe pas.
Tout
du
à
terrain.
Fait. Alors, ça a commencé, moi, je suis déjà très attaché à l'histoire. Mmh. Je suis un historien frustré dans le sens où, quand, avant de faire du théâtre, je voulais devenir historien. Et en fait, j'ai découvert une série qui s'appelle Kaamelott. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je veux faire ça. Je veux faire de l'histoire en faisant du théâtre, de la comédie, avec une exigence textuelle, une exigence de jeu, etc. Et à partir de là, suivant mon appétence pour l'histoire, j'ai découvert en 2019, juste avant Covid, l'histoire de la mort de Moctezuma. Et la mort de Moctezuma, on a c'est l'empereur, l'un des derniers empereurs, le Tlatoani des Mexicas, qui a donc rencontré Hernán Cortés au mois de novembre 1519. Et on ne sait pas comment il est mort. On ne sait pas s'il a été assassiné, exécuté, s'il a essayé de s'enfuir et puis qu'il a été tué par les siens, ou alors s'il a été, comme le disent certaines chroniques sous couvert espagnol, lapidé par son propre peuple. Oh. En fait, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de débats là-dessus, donc j'ai voulu creuser. Mmh. Et en creusant, en fait, je ne connaissais pas le monde mexicain avant la conquête, et j'ai découvert en fait une richesse philosophique, poétique, musicale, une richesse picturale, une richesse architecturale, politique, sociale, des choses qu'on méconnaît, qu'on ignore totalement dans nos sociétés occidentales et qui pourtant ont été passées sous silence parce que on avait considéré que c'était pas très intéressant d'aller véritablement chercher et puis d'apprendre à comprendre les gens. Et il y a eu quand même des travaux d'historiens qui ont mené ces recherches de compréhension. Camilla Thompson, Mathieu Ristol, Carmen Bernand, Jacqueline de Durand-Forest, etc. Et moi, je me suis appuyé sur leurs travaux, en fait. Et à partir de là, j'avais eu envie de proposer un spectacle qui va interroger justement notre rapport à l'autre, notre compréhension de l'autre et... également nous bousculer, nous percuter dans notre vision du monde qui est bien ancrée dans dans un monde très occidental, dans un monde dans lequel effectivement l'Église a été très forte, mais aussi où on a eu les mythes gréco-romains, celtes également. Et en fait, j'ai voulu amener un peu de mythologie qui vient de l'autre côté de la mer Océane, et venir en fait bousculer ce qu'on connaît et en même temps nous dire vous voyez, il y a quand même aussi des similitudes, alors que des peuples qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas à quelques centaines d'années d'écart, ils racontent la même chose, c'est juste qu'ils les appellent pas de la même manière et qu'ils leur mettent pas les mêmes habits.
C'est surtout que qui plus est, les peuples, les mésoaméricains, pardon, qui a une traçabilité de part de l'Occident que depuis à peu près le 16e, 17e siècle.
Tout à fait.
Et ce qui est plus compliqué pour nous en tant qu'occidental, c'est de bien faire une traçabilité de cette évolution par rapport à ces peuples qui nous sont séparés par rapport à un océan, donc l'océan Atlantique. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours un point de vue qui peut rester occidental, mais qui pour autant, on pourrait se dire... Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté ? Et est-ce qu'on est si indifférent que ça ? Ça, c'est la question que moi-même, je répondrais que non, car on reste des humains avant tout. Et ça, c'est une normalité, je pense. Et ça m'intéresse aussi le fait de voir des spectacles où on ne reste pas non plus que sur l'Occident, que sur le continent africain ou sur l'Asie, car il y a eu aussi beaucoup de pièces de théâtre au niveau de l'Asie, surtout à la période mongole. De l'Empire mongol, plus récent par exemple avec l'Empire byzantin qui a été le dernier héritier de l'Empire romain. Et c'est ce qui est de plus intéressant chez vous, c'est que vous traitez plusieurs types en fait, plusieurs cas au niveau social avec les moyens que vous avez aussi.
Tout à fait.
Et juste pour ça, je vous tire mon chapeau.
Merci. Merci. Mais c'est vrai que ça demande énormément d'investissement et d'énergie parce que je suis tout seul à faire ce travail-là. Jouissent de la possibilité d'avoir une équipe derrière qui vont faire les recherches, qui vont tout retranscrire et donner le travail un petit peu prémâché. Moi, je dois aller me renseigner, aller chercher les ouvrages, les lire, les relire, les comprendre, faire en sorte que les historiens eux-mêmes dialoguent entre eux, et puis ensuite m'interroger sur le fait de, bon bah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraisemblable, qu'est-ce qui est passé sous silence et pourquoi c'est passé sous silence. Par exemple, on a un événement qui est assez emblématique de la conquête, entre novembre 1519 et le mois d'avril 1520, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a à peu près 5-6 mois où on sait que les Espagnols de Cortés et les autres capitaines sont à Tenochtitlan, donc la capitale mexica. Et tout ça est passé sous silence. Ni Bernal Diaz y Castillo, ni Hernán Cortés dans ses lettres, qui sont les deux pourtant protagonistes qui sont présents sur place à ce moment-là, ne parlent de ça et ne disent ce qui se passe au jour le jour, quotidiennement, comment est la ville. Et donc cette mise sous silence de 5 mois, elle pose question, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le rapport des Espagnols aux habitants? Quel est le rapport des habitants aux Espagnols? Et en fait, en creusant un peu, on a quand même quelques codex qui nous parviennent, donc des facsimilés de l'époque, des témoignages aussi des survivants de la conquête, et qui ont raconté des choses, mais qu'on n'a pas jugé bon à divulguer, et notamment le fait que, ben, à ce moment-là, pendant ces 5 mois, il est possible que les Espagnols aient été otages des Mexicas et que les choses ne se soient pas passées comme prévu. Et c'est vrai que dans les lettres de Cortés, on a l'impression qu'il dirige tout d'une main de maître, qu'il réussit tout avec une poignée d'hommes en métal et en armes et leurs canons. Mais en fait, il manque de poudre, ils sont désespérés. Ils sont dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Il fait chaud. Alors, sous le soleil, porter une armure, ça devient aussi chaud que la braise. C'est compliqué. Enfin, voilà, c'est un moment qui pose de grandes questions et avec lequel j'essaye de travailler aussi dans Malinche, une femme entre deux mondes, où j'essaye de traiter de ce moment-là en disant que, bah, pour le côté mexica, effectivement, ils sont des otages, parce que pendant qu'ils sont là, ils n'attisent pas la rébellion ailleurs. Il y a tout un monde géopolitique tout autour, qu'on ne connaît pas en Europe, mais qui est vraiment un peu comme à la Game of Thrones. c'est vraiment le jeu des trônes. Et en même temps, bah, je raconte que Cortés lui-même sent que les choses lui échappent, et ça l'agace, et qu'il ne peut pas tout dire. Et donc, ça met en avant le fait que la parole et l'écriture sont des armes de pouvoir à des fins soit d'idéologie, soit d'intérêt personnel, politique. Et donc là, ça apparaît, puisqu'il y a des intérêts pour Moctezuma, pour Cortés et pour Malinche aussi, qui est prise entre les deux feux.
Et du coup, en réalité, vous faites aussi un travail d'historien.
Oui.
Toujours, en fait, à travers même votre métier, du coup, en tant que comédien et metteur en scène. Et du coup, quels sont les projets artistiques et pédagogiques que vous développez actuellement au sein de votre compagnie?
Alors, les projets artistiques qu'on développe actuellement, donc Malinche, là, qui doit arriver donc, le 10 décembre, qui va jouer donc, à Roanne, à côté de Lyon. Au mois de mai prochain, un autre spectacle qui s'appelle Hominina, et qui là va venir plutôt interroger l'évolution humaine depuis à peu près 8 millions d'années, c'est-à-dire depuis les Ardipithèques, en passant par Australopithèque, Homo habilis, Erectus, Heidelbergensis, Néandertal, Denisova, et puis nous. Vraiment une traversée avec un hommage à Jane Goodall quand même, qui a fait un travail remarquable pendant toutes ces décennies. Donc en projet pédagogique, c'est vrai qu'on a beaucoup construit autour de la mythologie mésoaméricaine. Moi, je propose depuis à peu près 3 ans, avec l'aide du département, des interventions dans les collèges, dans les lycées, pour inciter les classes d'espagnol en fait, à s'initier au théâtre, à apprendre à raconter des histoires, à s'initier aux mythes mésoaméricains. Donc ça fait partie aussi de la séquence pédagogique des professeurs. Et à partir de là, en fait, inciter les élèves à jouer en espagnol ou en français, ça dépend si je suis en sixième ou cinquième,
oui.
Mais quand je suis à un niveau plus élevé, bon, bah, on joue en espagnol, et avec de la marionnette, ils construisent leur propre marionnette pour jouer à les mythes qu'ils ont écrits, retranscrits, et avec voilà, une petite représentation à la fin. Donc ça permet de traverser à la fois une initiation théâtre, initiation marionnette, écriture, le rapport à la langue et le rapport au public.
Et même une initiation à l'histoire de l'Espagne, parce que
oui.
on oublie assez souvent que les cours d'espagnol et les cours d'allemand, enfin les cours en tout cas d'LV2 ou LV1 pour certains étudiants, sont aussi faits pour que à la fois on apprend la langue, mais aussi on apprend l'histoire de cette langue.
Tout à fait.
Et l'histoire du Mexique avec donc les peuples mésoaméricains, bah c'est tout à fait normal de parler espagnol dedans. Car il y a eu les conquistadors qui sont arrivés. Et comme vous l'expliquez juste avant, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, ça j'en suis sûr et certain, et vous nous l'avez très très bien expliqué. Mais c'est vraiment prodiguer une langue dans le sens où, certes, on maîtrise déjà une qui est la nôtre, le français, mais pourquoi pas en regarder une autre, pourquoi pas regarder son histoire, et pourquoi pas juste s'intéresser. En fin de compte, c'est mêler curiosité, histoire, tout en s'amusant. Et donc, c'est ça dans votre travail. Dans votre travail pédagogique, pardon, c'est de prodiguer le théâtre et pas par la facilité, parce que du coup on est obligé de parler dans une autre langue, mais pour autant ça nous force et au contraire ça nous donne envie de, eh ben, on va faire deux choses à la fois, faire du théâtre et apprendre l'espagnol.
Totalement.
Donc ça, j'adore, honnêtement.
Merci. Totalement. Mais là-dessus, justement, vis-à-vis de l'espagnol et du jeu au théâtre, ça permet justement aux élèves de ne pas appréhender une langue étrangère seulement par le fait du papier, par le fait du manuel ou juste assis dans une salle de classe à parler avec la prof, ce qui est très bien aussi, je remets pas du tout ça en question, et puis les profs font un travail remarquable là-dessus. En revanche, moi j'apporte une émotion dans la langue, en tout cas une perspective émotionnel dans le fait d'interpréter la langue, parce que juste le mot pero, mais c'est pas pero, non, c'est le même mais qu'on peut utiliser pour plein d'autres raisons dans le langage courant et de tous les jours, et donc ce mot là mérite d'être interprété de mille et une façons différentes,
bien sûr.
Et donc, ça permet aussi de vocaliser tout ça et de l'oraliser et d'être beaucoup plus à l'aise aussi là-dedans.
C'est surtout que l'intonation, du coup, permet de contextualiser ce terme en soi.
Totalement.
Donc, pero, no que tal muy bien espagnol, mais, mais c'est parce que je parlais aussi italien. Mais la manière dont on utilise son intonation permet de mettre son importance dans une phrase et dans un geste et même dans un acte d'une scène, en fait. Et c'est ça qui fait que le théâtre trouve tout son art, c'est d'être capable de mettre son intonation à travers une langue ou à travers la nôtre. Donc c'est ça que je trouve ça important. En tout cas, est-ce que on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux ou sur un site en particulier?
Tout à fait. Alors, on a le Facebook de la compagnie et l'Instagram qui sont au nom de la compagnie de Broc et de Plume. On a aussi un site internet, donc c'est bit.ly/compagnie-de-broc-et-de-plume, bit.ly de Broc et de Plume. Et là, vous trouverez le site internet de la compagnie avec l'agenda de tous les spectacles, les projets en cours, les projets... à venir, passé, et aussi les éléments pédagogiques qu'on met à disposition et les projets pédagogiques qu'on propose également.
Donc, si je ne me trompe pas, pour les prochains événements que vous aurez le 10 décembre, alors pour un spectacle, j'ai pas réussi à tenir le nom, c'est ça le problème.
C'est à Roanne, donc c'est Malinche, une femme entre deux mondes. Donc le 10 décembre, le 12 à Clé-sous-Bois, et puis après, on va au mois de février à Argelès-sur-Mer. On va aller à Boulogne-Billancourt également. Enfin voilà, on va un peu bouger pas mal.
Un peu partout.
À Lille, ouais. On va un peu. On est assez mobile. On est assez mobile. C'est le côté Broc de la compagnie, c'est-à-dire proposer des spectacles qui sont en capacité de tenir dans le coffre d'une voiture. Voilà. Il n'y a pas besoin de camion, il y a pour des soucis écologiques, mais aussi économiques.
Mm-hmm.
Mais voilà, bon, bah, faut bien se déplacer, donc on ne peut pas encore prendre le train avec notre valise, mais en tout cas avec toutes les lumières, etc. Mais tout ça tient dans le coffre d'une voiture, donc on est assez mobile
parfait.
Et accessible.
C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan de l'Église, d'avoir été dans l'émission Ma ville, ma région. Donc, pour rappel, il est comédien et metteur en scène, fondateur de la compagnie De Broc et De Plume. Il vient nous présenter donc son association, ses projets artistiques, ainsi que les activités culturelles et pédagogiques. Encore merci pour ce partage de votre parcours, de votre passion pour la scène et de l'univers si singulier de la compagnie De Broc et De Plume. Nous vous invitons, chères auditrices et auditeurs, à suivre la compagnie sur les réseaux sociaux pour découvrir les prochaines dates, les ateliers et les créations à venir. Très bonne continuation à vous et au plaisir de vous retrouver dans de nouveaux projets.
Merci à vous.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.